soir et bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou et l'humeur de Guillaume Guiz. Au programme ce matin, Leïla Bekti, la bande originale de Jérémy Alkaïm et Anaïs de Moustier, et en live, Vincent Delerme, le meilleur de la bande originale. C'est parti. Tiens, on va se mettre de bonne humeur avec Leïla.
Si je sais que tu m'aimes la vie, d'entrée. Que tu m'aimes au fond de moi.
On a envie de soleil en ce moment. Alors, il y a le jour polaire et on va en parler. Bonjour Leïla.
Bonjour.
C'est très gentil de venir nous parler de ce jour polaire. C'est
Vous avez bien choisi votre jour. Hier, c'était bouché, c'était l'enfer.
C'est l'avantage, c'est l'avantage du vendredi.
Ouais, le vendredi, c'est bien.
Il y a plein de gens qui prennent leur tété, ça roule mieux le vendredi.
C'est
ça
qui est bien. Formidable.
Expliquez-moi, Père Albert, pourquoi Leïla est notre invitée.
Alors, bien sûr, j'ai eu le temps d'y réfléchir. D'abord parce que Leïla Bekti est une comédienne remarquable. Oui. Par exemple, j'avais été très impressionné par la prestation de Mademoiselle Bekti. Bonjour, Mademoiselle Bekti. Bonjour. Dans l'Astragale, où elle interprétait avec brio un rôle qui me parle, puisqu'il s'agit de celui d'Albertine, qui est le surnom qu'on me donne dans certains établissements, fréquenté par Daniel Morin et par le père de Guillaume Guiz. Marc Dutroux.
Je pourrais respecter son père et mon père aussi, Albert.
Marco. Mais revenons, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
C'est Leïla l'invité, c'est pas Guillaume.
On a tout notre temps aujourd'hui, mais quand même. Revenons à Jour polaire, une série palpitante. J'en ai encore des frissons et des suées, des frissons, des suées, des frissons.
Allez, on y va.
Je disais, changer de soutane. Je disais donc, Jour polaire est un thriller glaçant dont l'action se déroule au nord du nord du nord de la Suède, au fin fond du fond du fond de la Laponie. Dans la lumière étrange de l'été arctique. Mais ne parlons pas de géographie, cette discipline naguie que vous souillez bien trop régulièrement. Pour échapper à son quotidien et à quelques emmerdements familiaux, le capitaine Kaina Zadi, Kaina c'est un très beau prénom, c'était une reine berbère, je ne me trompe pas, de l'OCPLRDV, Office central pour la répression des violences faites aux personnes, interprété par Leïla, accepte de suivre une très sombre affaire dans la ville de Kiruna, très sombre aussi, où un citoyen français a été la première victime d'une horrible série de meurtres, tous plus atroces les uns que les autres, à commencer par cette horrible décapitation particulièrement retorse, puisqu'effectuée à coups de pales d'hélico. Et c'est là que l'on peut voir également la dimension pédagogique de cette série. Car, comme le disait tout à l'heure Nagui, juste avant l'émission, parce qu'il patientait, j'ai laissé... voilà ce qu'il m'a dit. J'ai retenu au moins un truc de cette série. Désormais, j'y regarderai à deux fois avant de m'approcher des pales tournoyantes de mes hélicos, notamment celui qui me dépose tous les matins sur le toit de la maison de la radio. Au moins pour cela, Mademoiselle Bekti, vous n'avez pas fait cette série pour rien. Mais si cette série m'a ému, c'est aussi parce qu'elle me remémore un épisode peu connu de ma vie.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Du temps où je faisais le missionnaire, je vous en ai déjà parlé, dans le Groenland. Un jour, alors que j'avais organisé une sortie récréative avec de jeunes Inuits en recherche, nous fûmes pris dans une terrible tempête de neige. Dans cet enfer glacé, malgré ma soutane en thermolactyle, j'avais les burettes à zéro. Celle de l'infirmière dont parlait Nagui. En tête de notre colonne...
Je sais,
il ne faut pas exclure l'auditeur. En tête de notre colonne, luttant contre le blizzard, venait notre guide, une jeune barbue, Michouk. Le soir, dans notre igloo, alors que j'étais allongé entre Michouk et un phoque à moustache, me laissant aller aux confidences, je confiais à Michouk que lorsque j'étais enfant, j'aimais à m'endormir après avoir sucé un esquimau. Tout en passant sa langue sur ses dents limées en pointe, Michouk fixa alors intensément mon caleçon en poil d'ours blanc. Je compris alors qu'il s'agissait là d'un transsibérien, cannibale de ses croix. Mais bien que vous soyez impatient de connaître la suite de mon récit, Nangui, il est temps que vous entreteniez avec Leïla Bekti, je le sais.
Merci, Albert.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Alors vous Père Albert n'a pas spoilé cette série, c'est la première scène en effet qui est assez violente, c'est-à-dire cette scène d'un et qui est dans la bande-annonce, donc on peut la raconter, la scène d'un monsieur, on découvrira un peu plus tard dans le premier épisode qu'il est français, il est attaché, ligoté aux pales d'un hélicoptère. L'hélicoptère...
Pourquoi tu souris en racontant ça?
L'hélicoptère, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il y a un moment où ils vont nous faire un plan large, quoi. Il y a un moment où on va peut-être pas tout voir. Et non, c'est assez bien trafiqué comme...
Non, et puis c'est vraiment la...
Comme effet spécial. J'espère que c'est un effet spécial, en tout cas.
Oui, non. Eh bien non, bon, c'était Denis Lavant.
Donc, ça tourne de plus en plus vite et ça tue et ce monsieur qui est
Denis Lavant.
et qui est Pierre Carnot, surtout.
Pierre Carnot, voilà, mais Denis Lavant, qui est un grand acteur.
Absolument.
Et avec qui on a
enfin, qui est moins grand, avec une tête en moins.
Mais oui,
qui...
c'est vrai.
C'est ça.
Du coup, les moins grands.
Mais ils couraient vite comme les oies après.
Et donc, là, on est dans le Grand Nord. Et vous incarnez, Kaina, cette jeune policière qui va débarquer faire son enquête dans un milieu où finalement tous ses repères vont être perdus. Aussi bien le repère de l'espace, parce que on est dans des immensités, dans des décors absolument sublimes, mais avec une ville qui est en train d'être totalement déménagé dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, dans un pays où il n'y a plus de matin, d'après-midi et de nuit. Donc vous n'arrivez même plus à dormir et vous êtes totalement déphasé, déconnecté. Exactement. Et vous devez faire votre enquête. C'est aussi bien d'ailleurs un travail introspectif sur le personnage que vous êtes que sur qui est ce mec et pourquoi a-t-il été tué. Et puis il y a une série, après il y a des meurtres en série qui vont arriver. C'est qu'est-ce qui vous a plu dans cette série? D'abord qu'elle soit européenne, parce que c'est une co-production, ou c'est justement ce côté un peu planant, sans faire de jeu de mots avec la première scène?
Alors c'est un peu tout ça. Je suis très attirée par la culture scandinave. J'avais adoré les séries comme The Killing, comme Braun. D'ailleurs j'ai appris, enfin quand
ça aussi, toi, hein.
Braun, c'était incroyable.
Bah, c'est les mêmes créateurs que Braun.
Ah ouais, c'est dingue Braun.
Donc du coup quand
je
j'ai
connais
appris,
pas Braun, explique-moi.
C'est super.
C'est une intrigue qui se passe entre le Danemark et la Suède, parce qu'il y a un meurtre qui est vraiment à la frontière des deux pays, et donc c'est les deux polices qui vont
collaborer.
C'est vraiment incroyable, voilà.
Ouais, c'est super parce qu'il y a une, je trouve qu'il y a une vraie ambition dans l'écriture des personnages, dans l'enquête aussi. Le polar n'est pas juste une enquête à résoudre. Il y a un vrai propos. L'enquête sert les personnages servent le propos. Et puis c'était ma première fois en anglais. Aussi, j'ai fait 7 heures d'anglais par jour pendant 2 mois et demi.
Mais ça marche, en tout cas, vous le tenez bien.
Vraiment, je parlais pas du tout anglais, je savais pas dire les mots de la semaine et vraiment. Non, vraiment, vraiment. Donc, ça aussi. Et puis, encore une fois, la coproduction franco-suédoise, elle est pas juste pour faire une coproduction.
C'est pas qu'un effet d'annonce, c'est
oui,
vraiment
voilà.
dans l'écriture.
Exactement.
Et d'ailleurs, les comédiens. D'ailleurs, ce qui est fort, c'est qu'en VO, et je vous en prie, regardez la série en VO.
Mais 7 heures de travail par jour.
Non, c'est vrai, regardez en VO, parce que quand vous êtes seul avec vous-même ou avec votre entourage, vous jouez en français. Lorsque vous jouez avec vos collègues suédois, vous parlez en anglais. Et lorsque les Suédois sont entre Exactement. Eux, ils parlent en suédois. Et donc, autant ballotté que vous au milieu de toutes ces langues. Donc,
ça
fonctionne.
C'est exactement
bien.
Ça. Et effectivement, elle perd tous ses repères spatio-temporels. C'est vrai qu'il y a une impression d'être au bord du monde quand on est là-bas. C'est immense, et puis l'un des personnages phares du film, c'est la ville, notamment la mine.
Alors on va expliquer qu'il y a une mine de charbon ou de fer, non?
C'est du fer. Il y a énormément de choses et
qui extrait par jour l'équivalent de 6 tours Eiffel.
Exactement.
Voilà.
Je vais vous emmener avec moi en promo. Vous en parlez mieux
mais
que moi.
Où vous voulez. Ah ouais. Faut que je vous présente ma femme, surtout. Il faut qu'on s'organise. Mais bon.
J'ai arrêté de proposer des partout.
Mais non.
Mais c'est fatigant. Mais c'est vous qui êtes fatigué.
Si vous proposez, faites croquer les copains quand même. C'est moche.
Voilà, la seule parole sensée, c'est Guillaume.
Vous me dégoûtez, Nagui, vous me dégoûtez.
Donc, il y a cette mine qui extrait l'équivalent de 6 tours Eiffel par jour, qui est une source de travail et d'emploi, donc une source très importante en termes d'économie locale pour cette ville. Et il découvre qu'il y a un filon et qu'il va falloir déplacer la ville, sinon la mine ferme et à ce moment-là, tout le monde se retrouvera au chômage. Donc, tout le monde est dépendant du
Exactement.
Pouvoir économique de cette mine et la ville entière est déplacée, ce qui fait que le commissariat se retrouve à l'école et l'école au commissariat, tout le monde est mélangé le temps que tout soit reconstruit. On découvre, et là non plus j'espère ne pas spoiler... pas trop loin, qu'il y a aussi des magouilles économiques et que tout n'est pas vrai dans cette histoire.
Exactement. Et puis c'est vrai que j'ai adoré aussi dans l'écriture les métaphores. La mine, pour moi, c'est Kaina de l'extérieur. On a l'impression que tout va bien et à l'intérieur, c'est le chaos. Et il y a vraiment... aussi, on découvre une population. Les Samis. Moi, je connaissais pas...
Il faut expliquer. Alors c'est parce que c'est comme les aborigènes en
c'est des Inuits
en
qui ont
Australie,
été spoliés de
ouais.
Exactement.
De leurs droits, de leurs terres.
Comme les Indiens aux États-Unis, les Aborigènes en Australie.
Ils sont tout fait dépouiller, totalement. Ouais.
Oui. Et il y a, alors, il y a une forme de métissage. Il y a ceux qui sont d'origine Sami, ceux qui ne sont pas. Il y a peut-être aussi un propos d'intégration, de racisme ou de génocide pour ceux qui ont été totalement détruits et spoilés défaits de leur territoire et de leur propriété. Donc il y a beaucoup de sous-couches, un millefeuille, quoi. Il y a beaucoup de couches et de sous-couches.
Oui.
C'est pas qu'un truc policier.
Non, pas du tout. Ah non, mais puis ça m'aurait pas du tout intéressé de partir 4 mois pour ça. Ça a été ce projet, ça fait 1 an maintenant qu'il est là avec moi et ça a été une expérience extraordinaire parce que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est qu'à la fois je me sens vraiment différente de Kaina. Kaina, c'est une femme qui se laisse pas forcément traverser par ses émotions, qui lutte contre ses démons. Mais en même temps, je ressentais les mêmes choses qu'elle. J'étais complètement déphasée. J'ai dormi 3-4 heures par nuit pendant 4 mois.
Parce que le soleil ne se couche jamais.
Ah ouais, mais ça a été.
Ça doit être flippant, ça, quand même.
Les deux premières semaines, c'est très drôle. C'est amusant.
On fait des selfies.
Ouais, on fait des selfies à ses potes. Sauf qu'à un moment, tes potes, au bout de 2 semaines, ils disent c'est toujours la même photo, les gars. Puis c'est bon, on a compris. On a compris qu'on dirait qu'il est 14h. En fait, il est 4h du matin. Donc, à un moment, c'était. Et puis, mais surtout. Ce que je racontais l'autre fois, il y a 2 semaines, j'ai eu une grippe. Voilà, ça intéresse tout le monde.
Mais non, vous êtes un être humain aussi, vous n'êtes pas qu'une machine.
Voilà, exactement. Voilà. Non, mais je me sentais pas bien. Je me suis réveillée dans la nuit et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir s'il faisait nuit ou jour justement. Et sauf que quand t'es à Kiruna, tu peux faire ça. Et donc en plus, on a commencé à faire des nuits. On tournait jusqu'à 4h du matin. Et il s'avère que il y avait encore ce soleil qui était. Alors c'est assez
fou.
Mais
on ferme 25 fois les rideaux, on met des masques d'avion
ouais,
pour dormir.
En même temps, c'est tellement. Je me suis tellement rendu compte que la nuit était un repère pour nous et c'est un repère
le
depuis
corps,
que je.
Le corps a besoin corps, du soleil du comme coup, il a besoin de la nuit aussi. Ouais,
effectivement. Ouais. Et la vraie difficulté, c'était de trouver d'autres repères. Et c'est vrai que j'étais épuisée. C'était très éprouvant. Mais je me suis dit, au lieu d'en avoir peur, certain pour ton personnage, c'était ce qu'il fallait faire. Quoi.
Absolument, et ça fonctionne. On est pris dans le suspense. On a envie de savoir la suite. Il y a les fameux coming next qui arrivent comme il faut, c'est-à-dire qu'à la fin de votre épisode, il arrivera toujours un truc où vous dites punaise, je veux savoir ce qui se passe sur le suivant. C'est bien structuré et encore une fois, les images sont totalement
dingues.
Ah ouais, les décors sont totalement dingues. Et vous êtes extrêmement jolie déjà dans la vie, mais bien filmée aussi, même quand vous êtes dans la boue, même quand vous êtes
ouais,
dans
parce
un sale état.
Pas du tout,
mise en valeur.
Ouais, pas ouais. Du tout.
Non,
mais
y a pas beaucoup.
C'était, fallait que ce soit crédible mais j'étais pas. Ça a été, je crois, le film où j'ai eu le moins de prépa le matin. C'était
moins de maquillage.
Ah oui, c'était 5 minutes de prépa. Comment vous expliquer? Je prenais ma douche, petit déjeuner et hop, j'allais au boulot. Mais c'est très gentil.
Non, mais on en reste pas moins femme. J'ai envie de dire, est-ce qu'on va regarder les images, les rushs?
Ah non.
Est-ce qu'on se dit comment je suis là?
Ah non, pas du tout.
Non.
En plus, moi, j'ai un vrai blocage. Mais pour le coup, il y a des acteurs qui arrivent à regarder leur tour vidéo,
image,
ouais, oui. qui s'appelle le combo sur un tournage et. Et c'est pas tant qu'ils sont sur leur image, c'est que. Mais moi, je donne mes yeux au metteur en scène le premier jour du tournage et je les récupère à la fin. D'ailleurs, je me regarde très rarement pendant le tournage. Dans la glace.
C'est bien d'avoir confiance. Ah, carrément, même dans la glace.
Ouais, surtout sur cette série. J'étais très.
Fatiguée.
J'étais comme un robot, en fait. Ouais, non, mais il y avait un truc assez robotique où je faisais les mêmes choses.
Je comprends mieux les poches sous les yeux que vous avez dans l'épisode 2.
Voilà, là, pour le coup, ce n'est pas du maquillage. Sachez-le. Vraiment.
Et l'incarnation aussi, les comédiens. Alors, je ne vais pas me lancer dans le nom des comédiens de mes camarades suédois, mais vous êtes aux côtés d'Olivier Gourmet aussi, Denis Lavant, donc, qui joue Carnot. Et vous, Leïla, est-ce que vous étiez au cœur du projet? C'est-à-dire, dès le début, vous avez été contacté parce que ça s'est fait sur vous et votre personnage, vous êtes pratiquement de tous les plans. Où est-ce que vous avez pris le projet en cours de route?
Alors en fait, je savais pas du tout. Ils avaient pensé à moi à l'écriture. Ils m'avaient vu dans Un prophète. Donc je le savais pas. Je l'ai su quand j'ai été prise. Parce que j'ai dû passer des essais. Parce
quand
que
on a, ce que j'ai à dire, quand on a votre carrière, on fait encore des essais.
Ouais, mais surtout avec mon anglais, on fait des essais. je les comprends parfaitement.
Parfait. C'est même plus des essais, c'est des tests.
Dans le...
Ouais, c'est plus que ça.
Méthode assimile. Quand on voit la série, en tout cas, on voit pas qu'il y a des hésitations d'anglais.
Merci beaucoup.
Non, mais c'est vrai.
Non, ça a été. Bah, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais surtout, la seule chose qui me faisait peur, c'était pas tant le travail, parce que j'adore ça, mais j'avais peur de faire un sort de la langue au détriment de mon jeu. Et de penser qu'à parler bien anglais et finalement...
Et perdre l'intention.
Exactement. Et j'ai une super coach qui s'appelle Dani Héricourt, que j'embrasse si elle nous écoute, parce qu'elle a été formidable, elle m'a accompagnée durant les 4 mois de tournage.
C'est vrai que quand vous avez reçu le scénar, vous avez dit, c'est même pas en rêve, je vais pouvoir jouer en anglais.
Je me souviens, pour la petite anecdote, c'est mon agent qui m'appelle, qui me dit, Canal prépare une série franco-suédoise, c'est les créateurs de Braun. Je dis, oh là là, j'avais adoré cette série. Et il me dit, c'est en Laponie, et c'est plus de 4 mois de tournage, et c'est en anglais. Et j'ai dit, bon, bah, on s'arrête là, au revoir, bonne journée. Parce que ça ne servait absolument à rien de continuer cette conversation. Et au final, j'étais hyper heureuse qu'il me fasse confiance.
Ça s'appelle Jour polaire, ça sera à partir de lundi prochain, le 28 novembre sur Canal, j'imagine au rythme de 2 épisodes.
Exactement.
Par lundi.
Et on pourra les voir à partir du 22 décembre aussi pour...
En intégralité.
Voilà, non, on peut les voir en intégralité dès le soir même maintenant.
D'accord, pour les abonnés.
Voilà, pour les abonnés et pour... Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, elle sera disponible dès le 22 décembre.
Mais où ?
Eh bien, ça, c'est une bonne question.
En DVD ? Ça sent.
En DVD, mais même en téléchargement.
Toujours ce sens du suspense, Lila. Vous êtes hyper forte.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Je ne veux pas mourir ce soir, c'est Vincent Delerme.
Bonjour.
Il y a une scie qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour. Il y a la fin du jour. Il y a un cœur qui bat. Il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Pas mourir.
Les meilleurs moments sur France Inter.
Pas vraiment charmant, pas vraiment le prince. Non, non, c'est Guillermo Guiz, messieurs-dames.
Bonjour, bonjour les amis.
Salut. Ah, franchement, vous n'êtes pas charitable. Franchement, ça fait quelques mois maintenant.
Dépêche-toi. J'étais chez moi mardi soir, j'avais un peu faim. Mais là où cette histoire prend une tournure encore plus incroyable, c'est que je me dis, on est mardi soir, t'es relativement bien, t'es sale, ok, t'es sale, mais t'es bien, mais t'as pas envie de bouger. Alors tu te dis que la solution à ton problème tient en deux mots, Deliveroo. Tu te rends vite compte que c'était juste en un mot, mais t'es heureux quand même. Seulement, il fait 2 degrés dehors et tu sais que les mecs de Deliveroo sont précarisés, que leur protection sociale est bancale, alors tu te sens un peu coupable. En plus, tu sais qu'à force de les appeler, tu vas finir par avoir la mort d'un de ces gars sur la conscience.
C'est comme c'est très parisien, on va peut-être expliquer que c'est une boîte qui permet de commander de la nourriture et
qui viennent
voilà, à vélo, puisque c'est écolo, livrer la nourriture à domicile.
Absolument, mais tu sais qu'à force de les appeler, tu vas finir par avoir la mort d'un de ces gars sur la conscience.
Obligé, ils sont pas à vélo, ils sont à scooter.
Non, parfois, certains sont à scooter.
Ah ouais,
mais c'est vrai que je crois que c'est ce qu'eux veulent faire.
Ça existe à Lille, Deliveroo?
Je ne connais pas Lille.
Bon, vous êtes tout faux, Nagui.
Il y a une ville en dehors du périphérique, vous êtes sûr? Je croyais que c'est très parisien, mais bon, si ça existe.
Non. Elle est finie, cette chronique?
Ouais, voilà. Merci pour tout, c'était toujours moi. Mais non, mais voilà, forcément, il y en a forcément un moment ou un autre, il y en a un qui va finir broyé entre un bus et un kangou, parce que t'as la flemme de pas aller chercher ta margarita à 700 mètres de chez toi, clairement. Et tu sais que le soir où ça arrivera, tu recevras un coup de téléphone de la centrale pour te dire désolé pour le retard, notre coursier a eu un petit problème lié à sa mortalité, mais on fait le max. Et que tu répondras oui, enfin, tardez pas trop quand même, sinon on peut se brosser pour 100,50€ de pourboire, ce fainéant. Tu le sais, ça. Mais bon, t'as vraiment pas envie de bouger. En plus, t'as pas une vie facile. Chaque semaine, t'es obligé de te fréquenter des gens comme Leïla Kadour, Boudadi.
Boudadi,
qu'est-ce que je viens de dire? Badadi. C'est vrai, t'as aussi droit à tes petits bonheurs quand même. Alors tu dis fuck le coursier qui crève. Et puis voilà, mourir en faisant de l'exercice, c'est pas si mal. Regardez Félix Faure, le président. Big up à tous nos auditeurs en fin de parcours terrestre qui ont su apprécier toute la charge historique de cette vanne. Donc là, tu te dis, tu vas sur le site de Deliveroo et tu vois que ton resto grec préféré est ouvert et t'as bon, quoi. Franchement, ils font des brochettes d'agneau, de magazines, beaucoup plus bonnes que la plus bonne de tes copines. Big up à tous nos auditeurs rappeurs de plus de 40 ans, la caution adolescente de cette émission. Bref, tu salives déjà en voyant ton plat sur l'écran. T'es comme DSK quand il est sur booking.com, t'anticipes quoi, t'as déjà la scène en tête. Seulement, en ce moment, t'as conscience du malheur animal, t'as vu des documentaires sur la souffrance des bêtes, alors tu te sens un peu coupable. Tu dis, je peux pas faire ça quand même, cet agneau. Et tu dis cet agneau alors qu'en soi, tu le connais pas plus que ça. Sur le menu, il y a juste écrit brochette d'agneau, pas brochette de cet agneau. Il n'y a pas un selfie de la bête avec marqué ouais, je le vis bien, t'inquiète, bouffe-moi, t'inquiète. De toute façon, je me faisais chier en tant qu'agneau. Et puis, je suis le genre d'agneau qui crie ça va avec S, tu vois, donc honnêtement, je mérite de finir en sauce. Mais in fine, t'as quand même un cœur. Je sais, moi aussi, ça m'a choqué, mais t'as quand même un cœur. Tu dis, tu sais quoi, je vais plutôt aller chercher une margarita, et voilà, pendant 2 secondes au moins, t'as la conscience tranquille. Enfin, là, tu prends une douche parce que tu pues la négligence et le feu de forêt. Mais après 7 minutes de douche, tu réalises que tu surconsommes, tu penses à la planète et à tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau chaude et qui n'ont pas accès à l'eau tout court, alors tu te sens un peu coupable. Et puis tu sais que tu vas croiser Daniel Morin 3 jours plus tard. Comment tu vas faire pour le regarder dans les yeux alors que toi t'as eu la chance de prendre une douche? T'abrèges, tu prends ta voiture pour aller chercher ta pizza, mais tu roules au diesel et t'entends à la radio que si la circulation est alternée à Paris, c'est parce que les particules fines tuent des dizaines de millions de personnes chaque année. En général, ça tue les gens qui ont capté la vanne sur Félix Faure d'ailleurs. Mais bon, c'est pas parce que tu génocides vieux que tu génocides moral, clairement. Alors tu te sens un peu coupable aussi tout d'un coup et tu réalises que globalement au quotidien t'es plutôt quelqu'un de nuisible en fait et que ton plaisir il est quand même souvent lié à la souffrance des autres. Hein, ce qui n'aurait pas d'impact si t'étais dans une cave en simili-cuir et qu'on t'appelait Monseigneur, hein, sans vouloir faire systématiquement référence à la W de Nagui. Mais là, ça t'emmerde. T'as envie de faire souffrir personne, mais c'est dur d'être irréprochable. En gros, t'es obligé de renoncer à tout ce que la société valorise depuis que t'es petit, et il y a une tension, quoi. Ben, du coup, j'ai mangé un vieux bout de Crisp Rolls tout pourri avec la confiture d'abricot. Le premier qui m'emmerde avec ça, je vous le dis directement. Allez, bonne émission, les amis.
Toi, du quand même te doucher.
Merci, à vous vite.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Anaïs de Moustier, Jérémy El Khaïm sont nos invités. On a pris quelques dates comme ça et on les a mises en musique. On vous a même demandé ce que vous écoutiez. Par exemple, en 1998, Jérémy El Khaïm, écoutez.
Continue.
Racontez-nous alors cette musique, qu'est-ce qu'elle vous évoque, Jérémy?
Une période assez douce, j'étais pas très vieux et c'était les débuts dans le cinéma, je me souviens de courts-métrages.
En tout cas, elle vous fait sourire cette musique, vous l'entendez, elle vous met de bonne humeur. Quoi.
Mais en fait, ce que j'ai fait quand on m'a posé la question, j'ai regardé dans mon iTunes les dates d'ajout.
Ouais.
Et en fait, je suis tombé dessus à ce moment-là et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'écoutais ça. Mais vous savez, en fait, les musiques, elles ont ça de merveilleux, c'est qu'elles nous rappellent tout, quoi, les goûts, les sensations qu'on avait à l'époque, l'atmosphère. Et j'étais un vrai petit voyou.
L'endroit où on vivait, avec qui on vivait. Vous étiez un voyou?
Un vrai petit voyou, oui, je voulais resquiller.
Petite frappe
Pas petite frappe, mais j'aimais bien resquiller le cinéma, j'allais à Roland-Garros en cachette. Donc voilà, non.
Vous pouviez encore sauter les portiques du métro à l'époque.
Exactement,
c'est ça. Okay. À l'époque, vous avez co-écrit un léger différent.
Oui, exactement.
Court-métrage pour lequel vous avez reçu le prix d'interprétation à Clermont-Ferrand et François Ozon vous a repéré.
Oui, alors c'est dans l'autre sens, il m'a repéré avant que je fasse ce film-là.
D'accord.
Enfin, repéré, en fait, on s'est juste vu dans une fête dans laquelle j'avais resquillé, pour de vrai, une fête de cinéma. À l'époque, en fait, le ministère de la Culture avait pas mal d'argent et donc il faisait des fêtes mais dingues au Palais Royal, devant le ministère. Et il y avait des barbes à papa, des crêpes, enfin des trucs qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Enfin, ils jetaient de l'argent par les fenêtres, c'était merveilleux. Et je me souviens donc avoir resquillé dans cette fête et avoir rencontré François Ozon, qui à l'époque sortait de l'école, de la
FEMIS. Pourquoi c'était pas de l'argent foutu en l'air? Ça a aidé deux artistes à se rencontrer.
Des vraies rencontres.
Mais enfin, à l'aune d'une population, c'est un peu de l'argent jeté en l'air. C'est pour que ce soit juste El Caï mais Ozon qui se rencontre.
Qui mange des barbes à papa.
Ouais, on est d'accord, Anaïs. Je peux se rencontrer sans ça.
Mais comme quoi, resquiller, c'est utile.
Bah oui, il faut toujours un peu resquiller.
En 2007, 2017, ce sera fini tout ça.
Ça,
je peux vous le dire.
À ce moment-là, Anaïs de Moussier, vous écoutiez en 99. 98, la Coupe du Monde en fait.
Ouais. C'était la chanson de la Coupe du Monde.
C'est vrai. Mais parce que je voulais me raccrocher à 99 sur les.
Ça a continué en 99.
Les auditions.
Oui, ça a été vraiment une écoute longue.
Jusqu'au prochain match perdu en fait, ça a continué ça. Vous étiez totalement imprégné par la Coupe du Monde.
Totalement.
C'est vrai. Ouais. Vous allez avoir des matchs, vous avez des potes qui vous traînaient.
Non, j'ai un grand frère qui a 10 ans plus que moi qui aime beaucoup
le foot
et donc qui nous avait un peu transmis ça et donc j'étais vraiment très supportrice.
Oui, parce qu'on va rappeler que là vous avez une dizaine d'années quand on est dans ces années 98.
Ouais, 11 ans.
Voilà. Vous passez des auditions et vous avez été choisie pour tourner avec Michel Serrault, justement en 99.
Oui, pour tourner une scène dans un film qui se tournait à Roubaix à côté de là où j'habitais à l'époque. Et un directeur de casting était venu dans un cours de théâtre pour chercher des enfants. Et j'ai fait ce tournage qui a duré une journée, qui était vraiment très court.
On est consciente à 10 ans, 10-11 ans, de qui est Michel Serrault, de cette chance, même si ça ne dure qu'une journée, opportunité ou pas du tout.
Je le trouvais très sympathique et tout ça, puis je voyais bien que c'était un acteur...
Vous savez qu'il était connu?
Non, je voyais surtout un homme très sympathique et très gentil.
Est-ce que vous saviez qu'il était connu?
Oui, on me l'avait dit. Je n'avais pas vu de film avec lui, enfin...
T'avais pas vu La Cage aux Folles?
Non, j'avais pas vu La Cage aux Folles.
En 2005, Anaïs, vous écoutiez cette fois-ci Madonna.
Ah, ça s'entend bien.
Ça donne envie de resquiller.
Ouais, voilà.
Genre de musique sur laquelle vous dansiez entre copines?
Exactement.
Vous étiez fan,
Ça, c'était le moment où je venais d'arriver à Paris. Après mon bac, je suis venue vivre à Paris. Et j'habitais en colocation avec une amie et c'était le début de la fête à Paris, l'insouciance.
Genre ouais, on est à Paris, on peut se lâcher, on peut tout se permettre.
Ouais, ouais.
Je préfère pas savoir ce qui s'est passé dans cet appartement.
Menteur.
Mais s'il y a des photos qui traînent, on dit pas non.
Mais enfin.
Vous tournez. Je dis pas non.
J'allais dire demande à ta fille.
Pardon,
heureusement que
la coloc, tu vas l'arriver à Paris comme ça.
Mais ça va pas.
Ça y est, il est énervé.
Il y a l'image là, ça y est.
Vous tournez dans le premier long métrage d'un élève de la FEMIS, Raphaël Jaculot, qui a été présenté en plus à Berlin. Quel rôle vous aviez dans ce film?
J'avais un rôle assez secondaire, ça s'appelait Barrage, oui. C'était un très beau film de Raphaël Jaculot qui a tourné d'autres films après.
Voilà, je jouais la jeune fille du film. C'était un rôle assez secondaire. Hein.
Oui, mais enfin, c'est toujours des étapes par étapes. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on acquiert de l'expérience. Dans ces années 2005-2006, Jérémy El Khaïm, vous écoutiez New Order. L'ex-croissance de Joy Division, oui. Vous apparaissez dans des séries télé,
oui.
Notamment Le Bureau, Clara Scheller. Ce rythme de travail, le rythme télé avec on m'appelle, vous aviez du boulot sans trop le chercher, j'ai l'impression.
Oui, oui, j'étais un peu dilettante, un peu dans une période particulière. Je sortais d'événements dans ma vie personnelle qui étaient assez forts et très prenants. Et donc, j'étais pas complètement accro au travail.
C'est un comédien qui a toujours eu de la chance de
ça
pouvoir vivre de son métier.
Ça s'est toujours fait avec légèreté. Ça n'a jamais été. Ça s'est toujours fait de façon simple et avec des rencontres, de façon légère, un petit peu comme resquiller une fête et rencontrer un metteur en scène. Mais je sais que, enfin, en tout cas, à cette époque-là. Il y avait un truc qui était très doux, enfin très, Bizarre Love Triangle, New Order, c'était très léger aussi. Et Le Bureau, c'était fantastique parce que pour parler de la série, oui. C'est Nicolas et Bruno qui réalisaient, qui depuis ont fait des films, ils faisaient aussi les messages à caractère informatif. Mm-hmm. Et c'est deux fous de bureautique, enfin. Le truc, on jouait à la Cogirep, c'est des malades mentaux, ils adorent utiliser toutes les terminologies de bureau pour faire de l'humour avec, et c'est extrêmement drôle. Et on se retrouvait, un peu comme dans Police, à être vraiment des gens qui allions au bureau pendant 2-3 mois, on allait là-bas. Et c'est passé sur Canal+. Peu de gens l'ont vu, mais je leur conseille d'aller regarder.
C'était
l'adaptation de The Office. Ouais. Ils l'ont fait avec à leur façon et c'était très très drôle. Et François Berléand.
C'était le seul défaut de cette série, c'est qu'il y avait François Berléand.
Pas du tout, non, il était dément. Vous avez une dent contre François Berléand.
C'est un salopard.
je ne comprends pas ce succès, franchement.
Si tu dis que tu l'aimes bien, ils vont dire t'as pas compris la blague.
Ah,
ils
pardon. Tous
les jours.
Non, c'est l'exercice dans cette émission. C'est
à dire du mal de François Berléand.
Le plus de crasse possible de François Berléand. Parce que chaque fois qu'on se retrouve après, il est mort de rire parce qu'il écoute l'émission et il dit j'ai adoré quand vous avez dit ça de moi.
Nous, il nous foutait des gifles avant chaque prise.
Voilà. Il serait temps en parler.
Ah, voilà, un peu.
C'est comme ça qu'il traite ses enfants.
Non,
c'est
je peux honteux. Pas dire ça, non, c'est merveilleux.
En 2009, Anaïs de Moustier écoutait Peter Von Paul, j'adore.
On a élevé le niveau quand même.
Ça ne va pas.
Non, elle parle par rapport à ses choix.
Non, par rapport à ses choix,
il ne
voix de velours.
Ouais.
Un garçon adorable, je sais pas si vous connaissez.
Oui, un tout petit peu. Enfin,
ouais, très gentil. Croisé.
Mais je l'avais vu en concert à la Maroquinerie, je me souviens, et j'avais adoré.
Vous êtes nommé au César en 2009 dans la catégorie meilleur espoir féminin pour votre rôle dans Les Grandes Personnes d'Anna Novion. Juste pour en revenir à la musique, quelle est la place de la musique dans votre vie?
Énorme. Enfin, en tout cas, j'en écoute beaucoup. Il y a
le matin, premier
musique,
réflexe, c'est de mettre
la radio et aussi la musique. Ouais, mais beaucoup, beaucoup de musique.
Et vous jouez d'un instrument, vous chantez?
Un tout petit peu de piano, j'adore chanter. Je prends des cours de chant lyrique juste pour le plaisir, quoi. Mais c'est vrai que j'adore ça.
Parce que ça, vous ressentez quoi physiquement de chanter? Ça vous fait quoi?
Ah, c'est libérateur. C'est très agréable. Vraiment, je pense que tout le monde devrait chanter. Tout le monde, mais ça devrait.
Tout le monde n'est pas capable.
Non, mais comme quelque chose de. Non, mais si, tout le monde est capable. Parce que moi, j'avais commencé à chanter parce que j'avais des problèmes aux cordes vocales. Donc, c'était comme un truc thérapeutique. On m'avait dit soit vous allez voir un orthophoniste, soit vous allez prendre des cours de chant. Et en fait, j'ai découvert que d'une voix toute petite, avec un souffle tout nul et tout ça, on obtient une voix très très puissante.
C'est un exutoire physique aussi,
c'est un exutoire, mais incroyable. Ouais. Et ça fait des émotions, ça donne envie de pleurer, ça libère des choses. C'est très agréable, ça donne de la force et tout. Enfin, c'est vraiment génial.
Je connais un petit peu Anaïs, et ce que ne dit pas Anaïs, c'est que moi je l'ai déjà entendu chanter, c'est un animal de foire. Elle a une puissance vocale, parce que ça pour le coup, je ne pense pas que ce soit donné à tout le monde. Un animal de foire, on voit ce petit être humain.
Parce que je suis mezzo et que j'ai la voix d'une femme qui devrait être très grosse.
Mais une puissance phénoménale, vraiment, je rigole pas du tout.
Pour résumer, c'est le côté, c'est un petit bout de chou qui a une puissance vocale qui ne va pas avec son physique, c'est ce que vous voulez dire.
Disons qu'en tout cas, on peut se dire la délicatesse de son physique ne peut pas faire penser à un tel niveau de puissance vocale.
Et de là enregistrer un jour ou de le faire devant un micro,
public,
un public,
pourquoi
ça
pas, oui, j'aimerais bien.
Et vous, Jérémy ?
Chanter, non, s'il vous plaît, épargnons les auditeurs. Non, je l'ai souvent fait, c'est très étrange, il m'est souvent arrivé que des metteurs en scène me demandent de le faire, alors que je chante comme une patate, enfin, soyons clairs. Mais je peux y prendre du plaisir, c'est ça qui est terrible, quand vraiment on m'oblige à le faire.
Oui,
mais pas les autres.
Ça ne veut pas dire que
les autres. Je suis pas sûr que... Voilà.
C'est vrai, il y en a plein qui chantent comme des patates, ils ont fait carrière, je sais pas si vous regardez Taratata de temps en temps.
Sébastien Tellier, c'est ce que Jérémy écoutait en 2010.
Les soirs sans fin. Je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita.
Ce qui est une reprise acoustique.
Cherchais l'aventure.
Ah, ça va, c'est pas dégueulasse.
Ouais.
Jusqu'au petit matin.
Mais chante bien comme n'importe quel mec dans sa bagnole, si tu veux, quand t'as la musique forte.
Tu cours la nuit. D'ailleurs, ça, merci Nagui.
Ça, c'est vrai.
Quel salaud.
Mais non, mais je me sens...
On est à dit, on bâche Berléans, c'est tout.
C'est pas les invités.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ça. Vous jouez dans La Reine des Pommes, une comédie de Valérie Donzelli sur la dépression amoureuse d'une fille, interprétée par Valérie, qui voit son ex partout. Et,
oui, c'est l'inconscient du film.
Et vous tenez le rôle de tous les rôles masculins, c'est vous qui les tenez. Ça, au-delà de la... De l'intelligence de l'écriture, c'est un exercice, c'est un kiff total pour un comédien.
Ouais, c'était très très joyeux, c'était très drôle. Le film ne cherche pas à incarner un personnage de façon naturaliste, donc il n'y avait pas d'enjeu pour moi à vraiment les faire, les grimer. Mais malgré tout, avec quelques petits détails, réellement, on changeait les personnages. Et puis c'était très drôle. Enfin, il y avait un truc très léger. On a fait ce film un peu comme c'est venu. On l'a écrit très vite, on l'a tourné très vite, tout seul dans notre coin. C'est probablement mon film préféré de ceux qu'on a fait avec Valérie Donzelli. Et il a cette fraîcheur, cette légèreté et cette malgré tout, enfin, il raconte quelque chose qui me touche beaucoup. Encore une fois, une femme qui se libère, mais par ce biais-là et tout ça. Enfin, c'est un film surprenant, ouais. Et je voudrais juste dire à propos de Tellier, la chanson qu'on entend, c'est un truc qui s'appelle Session
et acoustique.
Ouais, acoustique. Et donc en fait, il fait tout au piano et tout ça. Et tous ces morceaux avant qui étaient des morceaux plutôt électro et la pochette du disque, je l'adore. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi ça. C'est Stéphane Manel qui a dessiné en fait et c'est super beau. On voit Tellier en train de au piano.
Bon, on revient, et merci pour l'enchaînement au dessin et à l'animation, La jeune fille sans main, ce film de Sébastien Lodenbach avec qui part d'un conte des frères Grimm. Je sais pas à quel point d'ailleurs ça respecte plus ou moins le conte des frères Grimm. J'ai évité de le lire parce que il y a toujours des horreurs dans les frères Grimm. Non mais c'est vrai.
C'est vrai que vous êtes sensible comme garçon.
Non mais avec les voix donc d'Anaïs Demoustier et Jérémy Elkaïm qui sont nos invités et justement on a demandé à Pierre Dubois, écrivain et conteur, merci Pierre de venir.
Ah oui, merci Pierre.
Bonjour Pierre.
Vous avez publié le 2 novembre L'Elphéméride, le grand légendaire des saisons, printemps, et vous êtes elphicologue.
Voilà.
Ça veut dire spécialiste des elfes, spécialiste des contes.
Oui, je suis le seul, je crois, oui.
Comment définir d'abord parlons
vous foutez un peu les jetons.
On pourrait imaginer comme l'un des personnages d'un conte. Quand je dis que les frères Grimm racontent toujours des horreurs, est-ce que les contes font toujours appel à nos frayeurs les plus profondes de notre enfance?
Pas toujours, mais souvent. D'ailleurs, je me suis amusé à écrire un bouquin qui s'appelle « Les contes de Grimm », où j'ai repris justement les contes de Grimm et j'en ai fait des horreurs. Qui est sorti chez Folio, je peux le dire.
Non, mais oui, vous pouvez le dire, absolument.
Sans vous venez de le dire.
Pierre, vous avez un rire hyper flippant. Quoi.
Tout à l'heure, quand je parlais du petit chaperon rouge, la véritable histoire du petit chaperon rouge, enfin du conte, en tout cas, c'est que non seulement le loup tue la grand-mère, mais il la cuisine en tourte, et quand le petit chaperon rouge vient, il fait manger. Au petit chaperon.
C'est quelle version ça?
La version originale.
Il y en a pas mal, il y a pas mal de versions.
Le chaperon mange
sa grand-mère. Le chaperon mange sa
grand-mère. Il y a pas mal de versions du petit chaperon.
C'est le pire, c'est que ce soit en tourte.
Même
le chaperon. C'est une hérésie.
Mais c'est pourquoi écrire des contes qui sont, enfin, moi dans mon imaginaire, imaginaire, c'est toujours dessiné aux enfants. Pourquoi raconter de telles horreurs? Pourquoi faire peur aux enfants?
Bah déjà, ça rassure l'enfant, curieusement. Vous avez remarqué, dans tous les films d'épouvante, il y a toujours un tas de jeunes américains boutonneux qui se perdent dans la forêt, ou qui font exprès de se perdre dans la forêt parce qu'ils se baladent. Là, ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme nos ancêtres, ils font un feu. Et alors, eux, par contre, grillent des chamallows, c'est dégueulasse, mais bon, sur la flamme. Des chamallows grillés, vraiment. Et la première chose qu'ils font, c'est de se raconter des histoires d'épouvante.
Mais c'est jouer à se faire peur.
C'est jouer à se faire peur, parce que ça permet justement d'exorciser la grande peur qu'il y avait tout autour. Je pense que on connaît pas trop l'origine des contes de fées, mais très certainement, nos ancêtres avaient peur, on le sait très bien, que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais. Et ce ciel qui nous tombe sur la tête, ben c'est tous les jours, c'est la nuit, déjà. Parce que eux ne savaient pas si le jour allait revenir. Et alors là, il y avait une nuit beaucoup plus longue, c'était l'hiver, où là, tout ce qui pouvait grailler s'était barré dans leur terrier. Par contre, eux devenaient le gibier des grands fauves.
Alors, les contes, ça quoi? Ça aide à grandir? Il y a quand même une morale? Ça donne des codes de
structure?
Oui, c'est ça. C'est un récit initiatique, de toute façon. Là, on parlait de cruauté, mais il est vrai qu'autrefois, les bouches de trou à nourrir, comme le petit pousset, on les attrapait, on les mettait sur le fumier, on les donnait aux cochons, mais enfin, on les mettait sur le fumier. S'ils avaient passé la nuit, on le récupérait. C'est qu'il était fort, il allait pouvoir survivre. Donc, toutes ces histoires-là ont été créées dans un monde vraiment cruel, très sombre, très noir. Et dans notre mémoire, on a gardé ces peurs, on a gardé ces peurs ancestrales. J'avais un copain, François Terrasson, qui travaillait au Musée, enfin qui était d'ailleurs, il occupait le bureau de Buffon au Jardin des Plantes. Ses élèves, il est paumé dans la forêt. Il est paumé pour qu'il retrouve justement.
Et vous êtes venu pour le dénoncer.
Ah non, bien au contraire, et de temps en temps, il perdait ses élèves, mais enfin, il était très content, pour qu'il retrouve les sensations premières, et qu'on comprenne effectivement, avec notre pauvre esprit reptilien, tout ce qui pouvait se passer, etc. Et donc, ce conte de fées, c'est un récit initiatique. L'enfant, aujourd'hui, donc même qu'il ait n'importe quel âge, on est toujours des enfants quelque part, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, et on nous lâche dans la forêt des contes, la forêt de la vie. On rencontre des sales types, on rencontre des ogresses, on rencontre des ogres, etc. Et on traverse cette forêt. On apprend à l'enfant, il doit faire alliance avec cette forêt pour pouvoir vivre, survivre. Il va donc
surmonter ses peurs, surmonter ses difficultés.
Voilà, surmonter ses peurs, mais en même temps faire alliance avec ses propres peurs. Et par exemple, s'il rencontre un animal blessé, il doit le sauver, faire alliance. Très souvent dans les contes, c'est « il était une fois au temps où les bêtes parlaient ». Elles ne parlaient pas spécialement, on partageait un même langage. On en faisait alliance avec la forêt et on s'en sortait. Donc il fallait aider l'animal blessé et plus tard, lorsqu'on aurait un problème, l'animal allait se révéler être un chevalier ou la jeune fille aussi. La femme, c'est la forêt. Et souvent, justement, on dit les contes sont sexistes, etc. C'est pas vrai. Et vous en avez parlé tout à l'heure de cette fille qui va se... Voilà. C'est la jeune fille, c'est la forêt. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les contes, le héros n'accède au trône que par les femmes. Il a beau être un costaud, un Schwarzenegger ou de ce qu'on veut, malgré tout, et tuer les dragons, il faut qu'il épouse la fille du roi pour accéder. Il doit la mériter. Il doit faire alliance avec la forêt. Et la forêt, c'est la femme, c'est la fée. Et alors, la fée, qu'est-ce que c'est aussi? Ça vient du mot fatum, c'est-à-dire le destin. Celui qui ne croit plus aux fées ne croit plus à son propre destin.
Oh, ça calme, ça.
Ah ben oui, et pas besoin de gencives.
On va répéter la phrase, je vais noter. Que...
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
L'Aquamonie, c'est Vincent Delerm pour vous dans la bande originale.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons. Richard Lornac.
Best-of sur France Inter.
Voici l'humeur sans débordement ou avec de Daniel Morin. Oui.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le virilissime Patrick Cohen, l'angoissé Augustin Trapenard, Nagui le dominant, André Manoukian, la chose, mais aussi Laurence, la directrice à l'univers capillaire radioactif, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin, en apparence.
Aujourd'hui, 2 novembre, pour être fidèle à la fête des morts, toute la grille de France Inter est lugubre. Laurence, la directrice, donne le ton à l'occasion d'une réunion dans le noir.
Bon, aujourd'hui, vous le savez, on rend hommage aux morts en faisant une antenne lugubre. Aucune joie, aucun enthousiasme ne sera toléré. Pour certaines émissions, je ne me fais pas de soucis. Je suis sûr que, comme d'hab, ça va être chiant à crever. Mais pour d'autres, j'ai des doutes. Bon, je vous laisse. Ne me décevez pas.
Puis après s'être cogné 12 fois, Laurence trouve la porte de la sortie et quitte la réunion. Pendant ce temps, brillant comme toujours, Augustin Trapenard a parfaitement saisi le sens de la thématique dans Boomerang, son émission que plus vite tu veux qu'elle s'arrête, plus vite qu'elle revient. Pour l'occasion, il fait l'interview d'une chaise vide, symbole de tous ceux qui se sont assis dessus un jour et qui sont morts depuis. Aujourd'hui, face à moi, habillé d'un tissu aussi noir que sec, décoré de quelques taches de mauvais café, je reçois la chaise. Bonjour la chaise. Vous ne me répondez pas la chaise et je respecte votre pudeur. Tout de suite, pour que la chaise reprenne ses esprits et qu'on sourie quand même un peu, on va écouter « Il pleut sur Nantes » de Barbara. Il est fort cet Augustin. Fort aussi André Manoukian qui, pour célébrer les morts et la déprime, fait une émission spéciale « Enfance en Arménie ». André raconte comment il a grandi au milieu des forêts d'arbres morts, à l'époque où il avait comme seul compagnon et comme doudou un écureuil. Un écureuil mort qu'il avait appelé Bleh. André évoque aussi son adolescence, adolescence durant laquelle, à l'époque de la grande famine, une bande d'enfants lépreux lui avait arraché une jambe et qu'il était rentré chez lui à cloche-pied. André raconte aussi le terrible moment de douleur quand sa première femme est morte en donnant naissance au premier de ses 19 enfants. Une première femme qu'il aimait comme un fou. Brigitte, une chèvre de 8 ans qu'il a pleuré pendant une semaine avant de la manger. André raconte enfin la fois où il a failli mourir quand un matin il faisait sa toilette nue dans un lac et qu'à cause de son corps couvert de poils, des chasseurs l'ont pris pour un ours et ont tiré dessus. Une enfance d'angoisse où la mort est omniprésente. Non, tout se passe bien pour cette journée spéciale de novembre et lugubre. Hein. Bien sûr, il y a quelques foirades où ça rigole, comme par exemple chez Nagui. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, on reçoit... Stop ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On a dit lugubre, Nagui. On parle de mort, merde. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Bon, allez, on recommence. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, on reçoit un artiste très, très ambiance de novembre. Pour Monsieur Charles Aznavour, faites du bruit ! Non, mais ça va. Bon, c'était presque ça. Ouais. C'est vrai qu'il est festif, le Nagui, et c'est dans sa nature. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, la thématique a été respectée. Quel travail, quelle réactivité, quelle abnégation. Toute cette application, cette remise en cause permanente de toute l'antenne, tout ce boulot de malade pour des gens et par des gens de génie. Et pourtant tout ça, c'est juste une journée ordinaire à France Inter.
Merci Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Des excuses à présenter Daniel Morin.
Désolé pour tous les enfants présents dans le public et qui ont été mordus jusqu'au sang par notre compteur psychopathe Pierre Benoît. Franchement les mômes, désolé, on savait pas qu'ils sortaient de prison. Non, encore une fois, pardon. Désolé pour les fans d'Anaïs de Moustier qui ont découvert ce matin qu'elle préférait les personnages qui en disaient peu et qui jouaient dans les silences. Ouais, c'est vrai, on appelle ça une sacrée feignasse. Désolé pour le maréchal Ganache, on a pu l'entendre se sent bien seul au milieu de cette tablée de crétins.
C'est vrai.
Et pour tout vous dire, je suis bien d'accord avec lui.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans la bande originale, voici Cameron Averti avec Wasted on Fidelity.
She'll go to win an argument. Is long enough but not strong enough for me. There's no reason in it is. You know the hurt, the loss pain. So I gave myself to the sure things, the simple and the bored things in my wasted world. Entertaining mornings when I can't see past the door, when my tires hung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me beg for more. You know she's got a busy day and I'd really love to stay, but I got shows to stop and pills to pop, so I really must be going, babe. Fidelities, I edge upon insanity, but it's just beer batter and rhapsody for me. I'll take lacy covered solace in the hope that she might promise all the things that she had mentioned. You can't imagine the potential, so I gave myself to the short thing, the simple and the bored. Things in my wasted wealth, all the bored things, those entertaining mornings when I can't see past the door, when my tires hung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me beg for more. You know she's got a busy day and I'd really love to stay, but I got shows to stop and roles to rock, so I really must be going.
C'était Cameron Averti dans la bande originale de votre été. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec toute la bande.